19. La petite sœur de Jérôme et deux de ses copines sont en train de jouer à la corde à sauter dans l'allée des Robinson quand Hodges arrive. Elles portent toutes des t-shirts à paillettes avec la photo d'un quelconque boys band imprimée dessus. Il traverse la pelouse, sa chemise d'acier à la main. Barbara court vers lui, le temps d'échanger un high five et de lui taper dans le poing, puis se précipite récupérer le bout de la corde à sauter. Jérôme, en short et t-shirt du City College aux manches arrachées pour en faire un débardeur, boit un jus d'orange assis sur les marches du perron. Odelle est à côté de lui. Jérôme dit à Hodges que ses parents sont partis faire les courses et qu'il est de corvée de babysitting jusqu'à leur retour. Pas qu'elle ait vraiment besoin d'une babysitter. Elle est bien plus débrouillarde que mes parents l'imaginent. Hodges s'assoit à côté de lui.
Ne prends pas ça pour acquis, crois-moi, Jérôme.
Ce qui veut dire ?
Dis-moi plutôt ce que t'as découvert d'abord.
Au lieu de répondre, Jérôme pointe le doigt sur la voiture de Hodges qu'il a garée le long du trottoir pour ne pas déranger les filles en train de jouer. Elle est de quelle année ?
2004. Rien d'exceptionnel niveau esthétique, mais elle se tient bien niveau consommation. Tu veux l'acheter ?
Sans façon, merci. Vous l'avez fermée à clé ?
Ouais. Même si c'est un quartier tranquille et qu'il l'a sous les yeux. D'habitude.
Passez-moi vos clés.
Hodges fouille dans ses poches et lui tend son trousseau.
Jérôme examine la clé électronique et hoche la tête. Dispositif EPSC, dit-il. C'est apparu dans les années 90, plutôt en tant qu'accessoire. Puis, c'est devenu la norme au début des années 2000. Vous savez ce que veulent dire les initiales ?
En tant qu'inspecteur responsable du dossier du City Center, et ayant fait passer un certain nombre d'interrogatoires à Olivia Trelawney, bien évidemment que Hodges sait. Dispositif d'entrée passive sans clé.
C'est ça.
Jérôme appuie sur l'un des deux boutons. Sur le trottoir, les phares de la Toyota de Hodges clignotent brièvement.
Là, c'est ouvert.
Il appuie sur l'autre bouton. Les phares clignotent à nouveau.
Là, c'est fermé. Et vous avez la clé.
Il la met dans la main de Hodges.
Tout à fait sécurisé, n'est-ce pas ?
Si l'on considère la raison pour laquelle on a cette discussion, peut-être pas.
Je connais des gars de la fac qui ont un club informatique. Je vous dirai pas leur nom, alors inutile de demander.
J'y comptais pas.
C'est pas des criminels, mais ils connaissent toutes les arnaques. Hacking, clonage, newsjacking, tous ces trucs-là. Ils m'ont dit que les dispositifs EPSC sont ni plus ni moins des permis de voler. Quand vous appuyez sur le bouton pour verrouiller ou déverrouiller la voiture, la clé émet un signal radio basse fréquence, un code. Si on pouvait l'entendre, ça ressemblerait un peu au bip quand on appelle un numéro de fax. Vous me suivez ?
Jusqu'ici, ouais.
Dans l'allée, les filles chantent « Sally in the Alley » pendant que Barbara saute avec agilité par-dessus la corde, ses jambes noires potelées luisant au soleil, ses couettes rebondissant.
Selon eux, il est très facile de capter ce code. Suffit d'avoir le bon gadget. Vous pouvez trafiquer une télécommande de porte de garage ou de télé, par exemple, sauf qu'avec ça, il faut être vraiment prêt. Disons, dans les 20 mètres. Mais vous pouvez aussi construire un truc plus puissant vous-même. Toutes les pièces sont disponibles chez votre gentil petit magasin d'électronique le plus proche. Prix total, $100. Portée d'une centaine de mètres. Vous attendez que le conducteur sorte de la voiture. Quand il ou elle appuie sur le bouton pour verrouiller la voiture, vous appuyez sur le vôtre en même temps. Votre télécommande capte le signal et l'enregistre. Il ou elle s'éloigne, et une fois le conducteur parti, vous réappuyez. La voiture s'ouvre et elle est à vous.
Hodges regarde ses clés, puis Jérôme. Ça marche vraiment ?
Eh ouais ! Mes amis me disent que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Les constructeurs ont modifié le système pour que le signal change à chaque fois que l'on appuie sur le bouton. Mais pas impossible. N'importe quel système créé par l'homme peut être piraté par l'homme. Vous me suivez toujours ?
Hodges l'entend à peine. Alors pour ce qui est de le suivre, il pense à Mr. Mercedes avant qu'il ne devienne Mr. Mercedes. Il pourrait avoir acheté l'un des gadgets dont Jérôme vient de lui parler, mais il pourrait tout aussi bien l'avoir fabriqué lui-même. Et la Mercedes de Mrs. Trelawney était-elle la première voiture pour laquelle il s'en était servi ?
Sûrement pas.
Il faut que je vérifie les cambriolages de voitures en centre-ville, se dit-il. Depuis, disons 2007, jusqu'au début du printemps 2009.
Il a une amie dans ses contacts, Marlo Everett, qui lui doit une faveur. Hodges est certain que Marlo acceptera de faire une petite vérif pour lui, sans trop poser de questions. Et si elle tombe sur un certain nombre de rapports que l'enquêteur principal a conclus par la formule, il est probable que le plaignant ait oublié de fermer son véhicule, alors il saura. Au fond de lui, il sait déjà. « Monsieur Hodges ?»
Jérôme le regarde un peu soucieusement.
« Oui, Jérôme ?»«
Quand vous travaillez sur l'affaire, vous n'avez jamais parlé de ce dispositif avec la brigade anticriminalité ? Je veux dire, ils doivent forcément être au courant. C'est pas nouveau. Mes amis disent que ça a même un nom. Le vol à la volée. »
On a parlé au chef mécanicien de la concession Mercedes, qui nous a dit qu'une clé avait été utilisée, répond Hodges.
Même à ses propres oreilles, sa réponse semble faible et sur la défensive. Pire, incompétente.
Ce que le chef mécanicien avait fait, ce que tout le monde avait fait, c'était présumer qu'une clé avait été utilisée. Une clé qu'une écervelée que personne n'aimait avait laissée sur le contact.
Jérôme affiche un sourire cynique étrange qui jure sur son jeune visage.
Il y a des trucs dont les concessionnaires automobiles ne parlent pas, monsieur Hodges. C'est pas vraiment qu'ils mentent. Ils effacent juste certains détails de leur esprit. Par exemple, comment un airbag peut vous sauver la vie, mais aussi vous enfoncer vos lunettes dans les yeux et vous rendre aveugle? Comment certains 4x4 se retournent plus facilement que d'autres? Ou combien il est facile de capter et d'enregistrer les signaux des dispositifs EPSC?
Mais les gars spécialisés dans la criminalité automobile doivent être au courant, non? Je veux dire, ils sont forcément au courant.
La vérité crasse, c'est que Hodges ne sait pas. Il devrait savoir, mais il ne sait pas.
Pete et lui étaient quasi constamment sur le terrain, de service du matin au soir, à dormir peut-être 5 heures par nuit. La paperasse s'amoncelait. S'il y a eu un mémo sur la criminalité automobile, il doit être perdu quelque part dans les caisses de dossiers. Il n'osera pas demander à son ancien coéquipier. Mais il s'avise qu'il va peut-être devoir tout raconter à Pete très vite. S'il ne trouve pas tout seul, cela va sans dire. En attendant, c'est à Jérôme qu'il doit tout dire. Parce que le type avec qui Hodges est en train de fricoter est fou.
Barbara accourt, transpirante et essoufflée.
« Jay, on peut regarder les dessins animés à la télé avec Hilda et Tonya ?»«
Ouais, vas-y, » répond Jérôme.
Elle se jette à son cou et colle sa joue à la sienne.
« Tu nous feras des pancakes, mon frère chéri ?»«
Non. »
Elle desserre son étreinte et s'écarte de lui.
« T'es méchant. Et feignant aussi. »«
Pourquoi tu vas pas chez Zuneis t'acheter des égaux ?»«
Bah, j'ai pas de sous. »
Jérôme plonge la main dans sa poche et en sort un billet de $5, ce qui lui vaut un autre câlin.
« Je suis toujours méchant ?»«
Non, t'es gentil. T'es le meilleur frère du monde. »«
Tu pars pas sans tes copines ?» dit Jérôme.
« Et emmenez Odelle, » ajoute Hodges.
Barbara glousse.
« On emmène toujours Odelle. »
Hodges regarde les filles dans leur t-shirt assorti s'éloigner en sautillant dans la rue, parlant à toute allure et se refilant la laisse d'Odelle, avec un sentiment de profonde inquiétude. Il peut difficilement imposer un couvre-feu au Robinson, mais ces 3 fillettes ont l'air si petites.
« Jérôme, si quelqu'un essayait de s'en prendre à elle, est-ce qu'Odelle
les protégerait ? Il y laisserait sa vie, Monsieur Hodges. Sa vie. Quelque chose ne va pas ?
Est-ce que je peux toujours compter sur ta discrétion ?
Toujours, monsieur.
Ok. Alors je vais devoir t'en raconter beaucoup plus. Mais en retour, je veux qu'à partir de maintenant, tu me promettes de m'appeler Bill.
Jérôme réfléchit.
Je vais mettre du temps à m'y habituer, mais c'est d'accord.
Hodges lui raconte presque tout. Il omet de préciser où il a passé la nuit, se référant de temps en temps à ses notes. À l'instant où il termine son récit, Barbara et ses copines reviennent du Gomart avec une boîte d'égos qu'elle se renvoie comme une balle en rigolant. Elles rentrent déguster leurs friandises du matin devant la télé. Hodges et Jérôme restent assis sur l'escalier du porche à discuter de fantômes.